Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun qui viennent nous parler de leur actualité, la parution des Adieux au Général, paru aux éditions Robert Laffont. Bonsoir Judith et Jonathan.
Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Sandrine.
C'est le deuxième livre que vous écrivez à quatre mains. Pour commencer, on va dire un petit mot de présentation sur chacun d'entre vous. Judith, vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne. Jonathan, vous êtes réalisateur et documentariste. Et le point commun entre vous, hein, vous me dites si je me trompe, c'est le militantisme à l'UEJF. Est-ce que c'est ça qui vous a réuni?
Oui, c'est à ce moment-là que nous avons agi, travaillé ensemble. Lorsque j'étais militant dès les premières années à l'UEJF et surtout en tant que président, j'ai pu à ce moment-là avoir les conseils précieux de Judith.
Alors votre actualité, c'est donc la parution d'un ouvrage que vous avez coécrit, Les Adieux au Général aux éditions Robert Laffont. Il y a 50 ans, le général de Gaulle s'éteint dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. Nous sommes le 9 novembre 1970, son épouse Yvonne est à ses côtés et déclare « Il a tant souffert ». C'est d'ailleurs le titre du premier chapitre de votre livre qui montre l'ambivalence de la fin de sa vie entre vieillesse et chagrin. Grand stratège, l'homme du 18 juin a précisé « m'a orchestré sa sortie et c'est aussi l'occasion de régler des comptes. » Et votre livre raconte donc les quatre jours entre la disparition et l'enterrement du général de Gaulle où les coulisses du pouvoir se révèlent. Au travers de votre enquête, c'est non seulement la douleur d'une famille française que l'on aperçoit et en même temps celle d'un chef d'État d'envergure internationale. Alors la première question qui s'impose, Judith, pourquoi avoir choisi de consacrer un livre au général de Gaulle et à cet angle particulier qu'ont été ces journées après sa disparition?
Alors, l'idée vient de Jonathan, en fait, qui, lui, quand on a écrit le premier livre sur le Front National dans sa tentative de séduction des Juifs de France, il y avait une idée que, justement, le Front National essayait de détourner différentes choses, donc la communauté juive, mais aussi de Gaulle. Alors, dans le souvenir, bien sûr, mais puisque... Marine Le Pen a même prétendu qu'elle était la seule à s'inscrire vraiment dans la filiation de Gaulle. Ce qui est quand même incroyable quand on sait que des membres fondateurs du Front National ont carrément participé à un attentat contre de Gaulle. Donc en fait, de Gaulle, c'était l'ennemi, en tout cas, même pour Jean-Marie Le Pen, énormément. Et là, donc, il y a eu ce premier intérêt pour de Gaulle qui est devenu évidemment un intérêt accru parce que de Gaulle, c'est quand même une personnalité incroyable. Et il se trouve que l'actualité reste reliée à de Gaulle. Par exemple, Macron a choisi de mettre sur son bureau, pour la photo présidentielle, les mémoires du général de Gaulle ouvertes, le livre ouvert, et donc juste à ses côtés. Puisque pour lui, c'est une référence très importante. Donc, il reste une figure tutélaire pour les Français très importante. Dans les sondages, il reste la personnalité politique française préférée des Français. Et du coup, c'était important, intéressant d'aller voir de ce côté-là, d'autant plus que c'était l'anniversaire de sa mort, justement.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Jonathan?
Non, il est vrai qu'on s'est laissé emporter à la fois par l'histoire du général de Gaulle, par plusieurs questions, interrogations... à commencer par celle de son engagement dans la France libre du 18 juin 40, de cette phrase qui résonnait depuis quelques années, qu'on voulait explorer sur « J'attendais l'église à Londres et j'ai trouvé la synagogue » et de comprendre aussi donc son cheminement avec un compagnonnage de personnalités juives qui ont rempli un rôle très, très influent par la suite comme René Cassin. C'est ce qui nous a porté à ce moment-là. Et puis, le moment de la mort est un moment clé souvent pour interroger les liens de filiation de ses possibles héritiers politiques, de ses rivaux, des autres chefs d'État à travers le monde. Et c'était aussi porté par un livre de Judith Pérignon qui s'appelle « Victor Hugo vient de mourir » où elle explorait les obsèques du plus grand écrivain, en tout cas les plus grands obsèques consacrés à un écrivain qui était Victor Hugo. Et ben donc là, les plus grands obsèques en France depuis la mort de Victor Hugo, et bien c'est celle du général de Gaulle.
C'est le deuxième ouvrage que vous écrivez ensemble, ce qui signifie que c'est plutôt une réussite, hein, puisque vous recommencez. Comment on se répartit le travail quand on écrit un livre à deux?
Alors ça, c'est la question qu'on a toujours envie de, poser, c'est normal. Alors, il y a une écriture, évidemment, on n'écrit pas en même temps, tout en même temps. Il y a certains chapitres qui sont écrits par l'un, et puis ensuite, on va les revisiter, l'autre va les revisiter, puis on va les revisiter ensemble. La trame du récit est plutôt portée... par Jonathan, qui est c'est un réalisateur hein, de documentaires et de cinéma, donc il a une trame en tête. Et après, bon, évidemment, elle va s'étayer, on va la compléter, moi je vais avoir des idées, et puis après, voilà, c'est un travail comme ça qui permet d'avoir un regard tout le temps critique, mais en même temps la possibilité d'être pas seulement le regard critique, mais aussi la personne qui va pouvoir écrire aussi. Et voilà, comment on avance.
Oui, avec en plus, lorsque l'un ou l'autre fait un choix d'écriture, il est tout de suite interrogé par le co-auteur. Donc, c'est un peu ce qui permet un people continu sur la manière d'écrire et sur les choix établis de structuration, de chapitres, de personnages à explorer. Voilà.
Donc, un enrichissement. Alors, justement, l'enterrement du général de Gaulle est minutieusement orchestré par un testament déposé à 3 personnes. Et c'est dès sa traversée du désert qu'il le fait en 52. Il laisse le premier exemplaire à son très proche Georges Pompidou, sans savoir d'ailleurs qu'au moment de sa mort, il sera président de la République. Est-ce que c'est seulement la crainte d'une récupération politique qui détermine ce choix, Jonathan ? Pourquoi ?
Ah, le choix de ce testament est extrêmement porté par le moment où il a écrit, 1952, par le fait que nous étions alors dans la 4e République, qu'il ne voulait aucune récupération politique, et que donc à ce moment-là, il n'était pas question, par exemple, qu'au moment de sa mort, si la République le décidait, et donc décidait des obsèques nationales et un hommage national, eh bien à ce moment-là, il pouvait lui donner le titre de maréchal, par exemple. Or, il tenait au titre de général, et de toute façon, depuis la période de Vichy, il n'était pas question pour lui de devenir maréchal, puisque c'était dans l'imaginaire collectif français, dans la mémoire collective française associée au maréchal Pétain. Et donc, c'était donc une manière de vouloir éviter toute récupération, toute instrumentalisation politique. Et il a voulu, malgré tout, jusqu'à la fin de sa vie, tenir cet engagement-là, même lorsque donc Georges Pompidou devient président de la République, et où là, quelque part, il aurait pu être un peu plus en confiance. Et donc, il est réinterrogé jusqu'à quelques mois avant sa mort sur ses volontés testamentaires. Il décide de ne pas les modifier. Et donc, j'ajouterai un dernier point. Il y a aussi une défiance à l'égard de l'État, même s'il en a été le plus important représentant depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le moment où on a décidé de le déchoir de la nationalité française, où il a été condamné à mort pour avoir été à Londres, pour avoir voulu poursuivre le combat. Et bien depuis ce moment-là, c'était avant même que Pétain ait les pleins pouvoirs que ces décisions aient été prises, il était extrêmement meurtri et extrêmement défiant à l'égard de l'État, et donc il ne voulait jamais rien lui devoir, et c'est ce qui l'a porté dans ce testament.
Alors c'est la question que je voulais vous poser en conséquence. Il faut dire, pour ceux qui auraient oublié ou qui n'étaient pas nés en 1970, c'est qu'il choisit un enterrement en toute simplicité, sans aucun officiel dans son village de cœur. Vous l'avez dit, hein, ce choix est déterminé en partie par une sorte d'aigreur hein, face au personnel politique. Mais est-ce que ce n'est pas aussi face aux Français qui l'ont déçu, ou tout simplement la dernière volonté d'un homme qui est toujours resté simple ?
Alors, pour les Français qui l'ont déçu, car certes, ils l'ont déçu, puisque ce qui le fait partir, c'est un référendum qu'entre parenthèses, il choisit alors que rien ne l'y obligeait. Hein. Ce n'est pas la suite de mai 68. Mai 68, il s'en relève fort bien, ça va être un raz-de-marée en sa faveur aux législatives, et voilà qu'il veut encore plus, il veut être assuré que, enfin bon, il envoie ce signe avec ce référendum. Est-ce que c'était une manière pour lui de s'organiser une sortie, puisque, bon, il allait presque avoir 80 ans. Et oui, là, il y a peut-être les facteurs psychologiques qui sont reliés à ce choix d'enterrement. Il a toujours voulu être très digne, ne rien devoir, mais pas seulement pour la question de la méfiance de l'État. Il payait ses timbres postes quand c'était son courrier personnel. Il avait refusé la pension d'ancien chef d'État, qui en fait Pompidou va en fait restituer à Yvonne de Gaulle parce qu'elle a peu de moyens, justement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut rester dans la modestie et qui veut pour son enterrement une forme d'ascétisme. Il faut se rappeler qu'il vient d'une famille très pratiquante et qu'il l'était aussi. Ils allaient à l'église. Pour lui, ce côté-là n'était pas du tout négligeable. Alors tout ça ensemble fait qu'il va choisir ça. Mais justement, les Français ont le droit, eux, d'aller à cet enterrement. Pas les personnalités, mais c'est ouvert à tous les Français. D'ailleurs, ils vont venir en masse. Ils vont se précipiter et en silence, donc dans un respect très important. Et il y a quand même quelques personnalités, celles que lui, il a décorées en fait, puisqu'il y a les Compagnons de la Libération, qui est un ordre que lui a inventé et qui s'arrête à la fin de la guerre. Donc il s'était arrêté déjà à la fin de la guerre.
Alors c'est une anecdote aussi que vous racontez, son fils lui-même n'est pas décoré Compagnon de la Libération.
Oui, et d'ailleurs son fils l'interroge, puisque c'est lui qui en est quelque part le décisionnaire. Et le général de Gaulle lui répond j'allais pas moi proposer ton nom, et puis personne d'autre du comité ne l'a proposé, donc voilà, si t'étais mort, j'aurais proposé ton nom. C'était une réponse assez rude.
Alors un grand homme, le général de Gaulle, aussi physiquement, dont le nom de famille en plus incarne son destin lié à la France, il est à la fois admiré, craint et contesté. Finalement, qu'est-ce qui fait la grandeur de ce personnage? Est-ce que le fait d'être un militaire et d'être resté un Français attaché à sa province, eh bien, c'est un petit peu aussi le mot d'ordre de son enterrement et qui éclaire finalement son parcours antérieur?
Oui, il y a en tout cas le choix attaché. C'est intéressant, c'est attaché à sa province, mais il faut tout de même rappeler que ce n'est pas non plus sa ville natale.
De naissance, oui.
De naissance, c'est pas là qu'a grandi ses ancêtres. C'est un choix qu'il a fait avoir rencontré Yvonne de Gaulle, d'aller habiter là-bas pour de multiples raisons. Et donc de se construire un lieu sans prédécesseur, sans successeur, c'est plutôt ce choix-là de venir marquer l'histoire de France en étant pas tellement rattaché à une filiation précise, et d'ailleurs sans vouloir que personne puisse malgré tout parler depuis son nom, bien que tout le monde le fasse aujourd'hui. Donc c'est cela aussi qui a fait sa grandeur, et puis donc d'être là au rendez-vous de l'histoire, à deux grands rendez-vous de l'histoire, que ce soit en 58, mais surtout le 18 juin 40, et puis ensuite d'avoir été attaché à l'écriture et à la construction, et ça c'est Judith qui a exploré beaucoup cet aspect-là, la construction de son mythe. Et donc le fait qu'il ait porté, il écrit ses mémoires avant même de revenir, la première partie de ses mémoires, avant même de revenir la deuxième fois au pouvoir, a fait qu'il a pu construire cette stature et cette légende qui s'est complètement apposée à partir des années 80, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il devient le premier des Français sentimentalement dans les sondages.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous parlons des Adieux au Général, le nouveau livre de Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun qui paraît aux éditions Robert Laffont. On voit passer des grandes personnalités, Pompidou qui était son protégé, avec qui les relations se détériorent un petit peu, mais qui est quand même celui qui est dépositaire de son testament, et puis François Mitterrand. François Mitterrand et Charles de Gaulle, c'est quand même une relation complexe. On s'en aperçoit d'autant plus au moment de la disparition du second. Est-ce qu'on peut résumer la teneur?
Alors, résumer la teneur, oui, il se détestait cordialement. En tout cas, le cordialement, on va le laisser du côté de Mitterrand, quoique non plus. Enfin, Mitterrand ne voulait pas accepter ce qu'il devait à De Gaulle. Or, quand en 65, aux élections, Mitterrand va oser, alors que c'est un jeune chien fou, on va dire ça comme ça, certes de l'opposition, mais il va oser donc se présenter face à De Gaulle. De Gaulle est sûr qu'il va n'en faire qu'une bouchée. Bon, d'abord, il trouve que l'autre écrit des inepties, que ses critiques sont aveugles et non fondées, bien entendu. Et là où quelque chose se passe, c'est qu'en fait, ça va le mettre en ballotage. Donc, jamais De Gaulle, qui n'avait pas fait campagne, tellement il était sûr de sa réussite, n'aurait imaginé que jeune chien fou allait le mettre en ballotage. Donc, finalement, il va faire une campagne et il va l'emporter. Mais ce qui a fait finalement Mitterrand, c'est justement le fait d'avoir osé s'opposer à De Gaulle et de l'avoir mis en ballotage. Ça va rester tout le temps. Il va revenir à plusieurs reprises. Il le veut, ce poste-là. Et donc, on comprend bien que pour lui, c'est le phare au loin qu'il veut atteindre. C'est la stature de De Gaulle. Néanmoins, il ne le reconnaîtra jamais. Il écrit à ce moment-là, quelque chose qui va être lié, bien entendu. Alors, tous les gens qui ne voulaient pas dire du mal de De Gaulle au moment où il est mort ont parlé de De Gaulle, libérateur de la France, De Gaulle, la résistance de Londres. Bon, ils se sont trouvés bien. Mais Mitterrand, on le voit bien, quand il va, lui, être au pouvoir, Bon, bah, y a rien qui rappelle plus De Gaulle que Mitterrand quand il est président.
C'est une stature, évidemment, qui les associe. Alors, il y a une autre relation que vous évoquez dans votre livre, c'est celle entre le général et David Ben-Gourion. Comme le général De Gaulle qui s'est retiré à Colombey, l'ancien premier ministre israélien s'est retiré au kibboutz de Stebocker. Ils ont eu des divergences, mais quelque part, il y a une ressemblance aussi, un peu comme avec François Mitterrand. Chacun incarne son pays, la simplicité de la terre. Et c'est d'ailleurs David Ben-Gourion qui est choisi pour représenter le gouvernement israélien aux obsèques du général De Gaulle, et pas Golda Meir, qui est alors premier ministre. Est-ce que c'est vrai que après son retour, eh bien, l'ancien premier ministre israélien a décidé, comme De Gaulle, de faire comme lui et de se mettre complètement en retrait de la vie politique et de rédiger ses mémoires, ce qu'avait fait De Gaulle aussi à Colombey.
Deux semaines après son retour de Paris, David Ben-Gourion, qui était encore à la Knesset, démissionne de la Knesset et exprime publiquement les raisons, écrire la fin de ses mémoires. Il avait regretté en effet que le général De Gaulle n'ait pas pu terminer ses mémoires, qu'il avait d'ailleurs préfacé la traduction en hébreu du premier tome. Et donc, à ce moment-là, lui, il a voulu aussi être très attaché à l'écriture de la fin de ses mémoires, d'ailleurs qu'il n'a pour autant jamais terminé. Par ailleurs, en tout cas, il a pas terminé le dernier livre qu'il voulait écrire sur la naissance d'Israël et notamment les liens avec la Tchécoslovaquie dans la fourniture d'armes. Donc, lui-même voulait aller au bout d'une histoire à écrire qui le concerne. Et sa visite à Paris pour rendre hommage au général De Gaulle a dû être certainement déterminant. Et c'est vrai que ce point commun avec son Colombey israélien à Stebocker, avec le fait aussi de ne pas vouloir d'hommage national, de ne pas vouloir de grandes cérémonies au moment de sa mort, puisque comme pour le général De Gaulle, David Ben-Gourion sera enterré avec quelques centaines de personnes et pas du tout avec les coups de canon qui accompagnent la mort d'un ancien chef d'État israélien. Donc y a vraiment cette similitude-là. Et alors après, c'est surtout un paragraphe qu'on file les points communs, les comparaisons ou le parallèle, et par exemple aussi sur le fait de pouvoir se laisser prendre par des idées noires, le côté très mélancolique de l'un et de l'autre, et c'est pourquoi d'ailleurs que le chapitre on l'intitule l'autre Jonas, un des prophètes, enfin des personnages bibliques très importants pour Ben-Gourion, et c'est un point commun entre les deux, cette mélancolie dont ils n'ont pour autant pas parlé lors de leurs différents rendez-vous qu'on relate à l'intérieur de ce chapitre.
Vous racontez aussi l'office funèbre de la communauté juive qui a été organisé à la Grande Synagogue de la Victoire le 12 novembre 70. Qu'est-ce qu'on peut dire du lien entre les Juifs et l'homme qui a été à la fois spontanément celui qui a condamné les lois anti-juives de Vichy et en même temps déclaré que les Juifs sont un peuple sûr de lui-même et dominateur? C'est un peu un je t'aime moi non plus, ces relations.
Alors, la polémique reste vive encore aujourd'hui. On s'aperçoit que dès qu'on évoque ce sujet, ce qui était le cas à différentes interviews, mais aussi on le voit dans les discussions Facebook, notamment on relate celle qu'il y a sur le mur de François Hellebrun, dès qu'il y a quelque chose sur De Gaulle, hop, c'est parti. C'est lui qui a remis en selle l'antisémitisme en France avec cette déclaration. Non, c'est lui qui a sauvé les Juifs. En tout cas, il n'avait aucune ambiguïté, puisque autour de lui, à Londres, il dit qu'il s'attendait à voir les résistants et il a vu la synagogue et la cagoule. C'est-à-dire qu'il y avait donc des Juifs. Et en parlant de Londres, il doit, lui, son départ à Londres à Mendel. Mendel, donc, qui lui dit explicitement, on le voit aussi dans la série De Gaulle qui est passée sur France 2, il lui dit « Non, mais moi, je suis juif, ça n'ira pas. »
Alors, vous l'expliquez bien, ça aurait pu être Mendel et pas De Gaulle.
Absolument, ça devait être Mendel. Mm-hmm. Mendel se retire au profit de De Gaulle. Elle lui dit « Allez-y, vous. » Et donc, ça fait... Et d'ailleurs, cette amitié ne se démentira pas lorsque Mendel vient à mourir. De Gaulle est très touché, va faire des obsèques. Donc...
Et surtout, c'est vrai que je dis, t'as raison de dire, on attendait, l'homme qu'on attendait à Londres était Mendel, mais c'est pour son identité juive qu'il n'y va pas. Son vrai nom est Rothschild, d'ailleurs il a changé pour devenir journaliste sans devoir subir l'antisémitisme, et au moment de partir, c'est De Gaulle lui-même qui lui demande « Mais pourquoi vous n'allez pas à Londres ?» Et il répond « Parce que je suis juif, et donc je serai vécu comme un déserteur, et je ne pourrais pas être considéré comme un possible chef de la France libre. Donc, plutôt que d'ajouter à la panique et au climat ambiant de l'antisémitisme, je préfère me retirer. » Mais De Gaulle lui-même avait voulu démissionner du gouvernement quelques jours avant. Et c'est Mendel qui l'en a empêché en lui disant « Vous serez... » Et donc, avec une vision assez prophétique, « Vous allez peut-être avoir de grandes responsabilités à l'avenir. Ne démissionnez pas des fonctions que vous avez à présent. » Et De Gaulle dira, en effet, qu'il a toujours été animé par cet acte-là de Mandel de l'avoir empêché de démissionner. Et c'est ce qu'il a porté, il le dit dans ses mémoires, il écrit, c'est ce qu'il a porté physiquement pendant l'aventure de la France libre.
Alors, la relation à la communauté est ambivalente. Et pourtant, le général De Gaulle n'a jamais été aussi populaire. Je crois qu'il est comparé dans les sondages, il est au même niveau que Napoléon. Oui. Et encore aujourd'hui, hein, les politiques de tous bords revendiquent la filiation gaulliste. Qu'est-ce qui explique cette longévité, d'après vous ?
Alors, c'est quand même le dernier homme. D'abord, il a sauvé la France, donc ça reste. Il a osé s'opposer à l'État, tout en étant quelqu'un qui est extrêmement, fidèle à ses idées. C'est un militaire, hein. C'est un militaire qui décide de désobéir. C'est un grand acte. Donc, c'est-à-dire qu'il est porté par des valeurs et par ce qui est juste. Et ça, c'est très important. On a besoin de figures de cette nature. Et oui, parce que pour en revenir quelques secondes aux Juifs, bien qu'ils aient été touchés, bien que Aaron va faire un livre où il pense que De Gaulle a lâché les Juifs, eh bien oui, il y a la synagogue de la Victoire. Il va y avoir un office en sa mémoire ce même jour où il y a l'enterrement à Colombey et l'hommage à Notre-Dame. Donc les Juifs restent attachés parce que pour eux aussi c'est une figure forte. C'est quelqu'un qui porte donc des valeurs. Aujourd'hui, il faut dire aussi qu'on est dans un régime présidentiel qu'il a lui mis en place. Donc ça reste quand même la référence. Hein. Cette cinquième république, on est dans ces terres, j'ai envie de dire.
Alors, question classique, mais néanmoins difficile dans cette émission. Pour terminer, si en une ou deux phrases, vous deviez chacun à votre tour donner envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez ? Jonathan, d'abord. C'est pas facile.
Non, en effet, ce n'est pas facile, puisque en deux, trois phrases, alors qu'on a voulu le dire en 200 pages, de résumer l'envie du livre. Non, mais c'est en tout cas un moment clé qu'il est nécessaire d'explorer quand on est passionné d'histoire de France. Et en une phrase, c'est le plus grand hommage national rendu à un homme français de l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc ça, c'est, rien que pour cela, ça mérite de l'intérêt.
Judith ?
Alors moi, je suis beaucoup plus futile. donc, c'est un livre qui est écrit quand même comme un roman, en fait. Et puis, bien qu'on connaisse la fin, le suspense est soutenu. Mais ça, je crois que c'est peut-être plus à ceux qui l'ont lu de le dire. Mais en tout cas, c'est les retours qu'on a. Et c'est vrai qu'on a voulu l'écrire comme ça, en fait. Donc, on suit les personnages. C'est l'histoire, mais c'est aussi les petites histoires. C'est l'histoire de Gaulle père, de Gaulle mari, de Gaulle frère. C'est l'histoire d'une amitié forte, passionnelle entre De Gaulle et Pompidou. Et c'est le destin d'un homme qui, au fur et à mesure, à la fois construit son image et à la fois doit vivre avec les complexités qu'on a tous, c'est-à-dire cette forme de mélancolie, mais c'est-à-dire les hauts et les bas. Est-ce qu'on va arriver ou pas à faire ce qu'on avait prévu là où on s'était projeté ? Et c'est pour ça que vraiment, ça se lit comme un roman, avec même un peu de suspense.
Voilà. Alors, c'est très bien écrit. Ça se lit très facilement. Ça peut être une lecture de Shabbat, hein, assez rapide. Et puis, c'est vrai qu'on est par l'anecdote, on apprend des choses qu'on ne savait pas ou on se rappelle des choses qu'on avait oubliées. Donc, pour toutes ces raisons, merci beaucoup, Judith et Jonathan, d'avoir accepté de parler avec nous de votre actualité, la parution des Adieux au Général chez Robert Laffont. Et puis, peut-être à très bientôt pour un troisième ouvrage. Bonsoir.
Merci, bonsoir.